Donc, bonjour à vous toutes et tous. Merci de m'avoir invité à faire cette présentation. Je suis Michael Aubert, un professeur à l'université de Rouen-Normandie, et je travaille au laboratoire Ecodiv, qui travaille sur les relations, en gros, diversité, fonctionnement du sol à l'interface sol-végétation, surtout dans les systèmes prairiaux, systèmes forestiers, et dans des contextes de recréation de milieux aussi en basse vallée de la Seine. Donc, je vais vous parler de la vie trépidante des sols, des organismes qu'on y rencontre, des fonctions et d'impact de la gestion sylvicole. Je vais peut-être aller assez vite sur certaines parties parce que j'ai vu qu'il y avait peut-être un peu de redondance où des gens vont plus loin que moi sur certaines parties, donc je passerai peut-être assez rapidement. Alors, pour ne pas perdre de temps, ça passe pas. Hop, attendez. C'est bon, c'est parti. Quelques généralités sur les organismes du sol et les fonctions qui elles réalisent, pardon. Alors, qu'est-ce que la biodiversité des sols? Elle a été définie comme englobant l'ensemble des organismes vivants dont une partie au moins du cycle biologique se déroule dans les horizons pédologiques enrichis en matière organique, donc essentiellement les horizons à l'interface sol-atmosphère. Donc ça englobe les organismes qui ont une partie de leur activité dans le sol et une partie à l'extérieur, qui ont totalement leur activité dans le sol, ou bien une partie de leur cycle de vie, par exemple le cycle larvaire, le stade larvaire, dans le sol, et une partie du cycle de vie dans la partie aérienne. Ça englobe également les plantes, dont le système racinaire est présent dans le sol et interagit fortement avec le reste de la faune. On estime qu'il y a entre 25 et 30% des espèces pour lesquelles on a donné un nom scientifique, des 1,7 million d'espèces pour lesquelles on a donné un nom scientifique, qui sont présentes dans le sol, et donc ça englobe de multiples groupes taxonomiques, depuis les virus jusqu'aux mammifères, en passant donc par les plantes. Très rapidement, parce que en fait, vous donner des chiffres sur ce que l'on rencontre dans le sol est assez peu informatif, puisqu'il y a une très grande variabilité en fonction des biomes, en fonction des milieux, en fonction d'altitude, etc. Mais pour un sol méditerranéen, par exemple, ce que vous pouvez trouver dans l'atlas de la biodiversité des sols européens, eh bien, les nématodes, par exemple, vous êtes susceptible de rencontrer jusqu'à 13 000 individus englobant une vingtaine de familles. Les collemboles, ça varie de 1 500 à 33 000 individus pour représentant 17 à 38 espèces. Les lombricidés, tout en bas du tableau, entre jusqu'à 200 individus représentant jusqu'à 7 espèces, sachant que dans des systèmes prairiaux très diversifiés, on peut rencontrer jusqu'à une dizaine d'espèces et plus de 450 individus au mètre carré. Donc, c'est quand même assez énorme. La classification la plus connue des organismes du sol, eh bien, c'est la classification par la taille. Donc, si j'exclus la microflore, bactéries, champignons, eh bien, on range dans la catégorie des organismes inférieurs à 100 microns tout ce qui est microfaune, nématodes, protozoaires. Les organismes qui sont compris entre 100 microns et 2 mm, la mésofaune, donc des collemboles, des diplures, des anchytrides. Entre 2 mm. Et la classification donne 20 mm, mais on peut aller jusqu'à 250, voire 500 mm, hein, pour certains vers de terre, voire même plus. C'est la catégorie de la macrofaune, donc on rencontre les diplopodes, les chylopodes, les araignées, des coléoptères, les vers de terre. Et puis, au-delà de, selon la classification, 25 cm, on est dans la catégorie des grands vertébrés, les taupes, les blaireaux, les lapins, etc. Ce qui est intéressant sur cette figure-là, c'est les cercles en jaune et bleu, dont la taille est proportionnelle au nombre d'espèces estimées pour chaque groupe, avec le jaune qui représente les espèces qu'on estime ne pas connaître pour le moment, et la partie bleue, la proportion d'espèces pour lesquelles on a attribué un nom scientifique. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que si on fait la moyenne de tout ça, il y a 25%, on connaît seulement en moyenne 25% des taxons, et le reste, c'est une estimation de ce qu'on savoir dans les sols. Et pour certains groupes, les bactéries, les champignons, on est à moins de 5% d'espèces connues. Pour d'autres, c'est un peu mieux, les diptères, 60% par exemple. Mais ça reste quand même, il y a quand même beaucoup de choses que l'on ne connaît pas. Et c'est donc assez difficile derrière d'essayer de rattacher un niveau de biodiversité avec des fonctions dans le sol. Autre classification des organismes, la classification fonctionnelle. Une classification fonctionnelle, alors je vous propose celle de Lavelle, hein, qui divise les organismes du sol en trois grands groupes. Je vais aller assez vite. Les micro-prédateurs qui ont des interactions biotiques essentiellement de prédation, qui vont générer des structures, des biostructures ou des déjections 100% organiques et dont les principales fonctions reconnues sont la stimulation de la minéralisation et la limitation de l'immobilisation de certains éléments comme l'azote et le phosphore par la biomasse microbienne. En broutant les champignons et les bactéries, ils relarguent ces éléments-là et les remettent à disposition de la végétation. Les organismes ciblés sont essentiellement les micro-invertébrés. Les transformateurs de litière ou fragmenteurs qui ont des interactions avec la microflore plutôt stimulatrices de cette microflore par un mécanisme de rumen externe, ils mettent en contact la matière organique avec les organismes et une fois que la déjection est produite à la sortie du tube digestif, eh bien les bactéries minéralisent. Les biostructures produites sont essentiellement organiques, holorganiques, pardon. Et les organismes ciblés sont les organismes de la mésofaune et quelques macro-invertébrés type diplopodes ou isopodes. Enfin, les ingénieurs du sol, qui eux boostent aussi l'activité microbienne par une symbiose digestive, une production de substances au cours du transit intestinal qui va permettre aux organismes de la microflore de travailler plus fortement. Et les biostructures produites sont organominérales, les fameux turricules de vers de terre, hein, qui contribuent à l'agrégation, à la stabilisation du sol. Et donc les organismes visés sont les macro-invertébrés, vers de terre, fourmis, termites dans les systèmes tropicaux. Alors, derrière, on peut aller sur des classifications de type interaction biologique. Et ça, c'est un petit peu plus intéressant. Une proposition de reconstruction de réseaux trophiques où on va retrouver donc, dans le carré de gauche les ressources matières organiques mortes décomposées par les bactéries et les champignons. Bactéries et champignons eux-mêmes consommés par des nématodes qui vont être consommés par des prédateurs micro-arthropodes en haut de la chaîne. On retrouve à côté les propositions de Lavelle sur les ingénieurs de l'écosystème et les transformateurs de litière, mais on rajoute des prédateurs de la mésofaune et de macro-arthropodes, type, des top prédateurs type chylopodes ou araignées. Et bien sûr, à côté de ça, dans les interactions biotiques, il y a des interactions directes avec les plantes, c'est la partie gauche de la figure colorée que je viens de vous faire apparaître. Les interactions directes avec les plantes qui peuvent être bénéfiques, hein, les associations mycorhiziennes par exemple, mais négatives pour les plantes avec les pathogènes ou les consommateurs de systèmes racinaires. Donc des interactions biotiques extrêmement diversifiées et qui vont avoir des conséquences fonctionnelles sur la dynamique de la matière organique. Donc, la matière organique morte qui est restituée au système sol, elle va être décomposée plus ou moins rapidement et les éléments constitutifs de cette matière organique vont transiter par les différents niveaux trophiques du sol pour être restitués sur une forme plutôt simple, matière organique dissoute, matière organique particulière ou CO2 ou éléments minéraux. Et là, on distingue deux grands types de diversité dans le sol, la diversité verticale qui correspond à la richesse en niveau trophique dans le sol et la diversité horizontale qui va en gros consister en la richesse taxonomique au sein de chaque niveau trophique. Le flux des éléments, il est régulé par la ressource, la qualité de la ressource qui va entrer dans le système sol, c'est le contrôle montant, et il est aussi régulé par la prédation d'un niveau trophique N sur le niveau trophique N-1, c'est le contrôle descendant. Donc, tout ça, ces grands types d'interactions-là vont limiter ou accélérer les flux d'éléments dans l'interface sol-végétation. Et puis à ça, il faut rajouter quelque chose d'encore un peu plus complexe, c'est-à-dire la composition de chaque niveau trophique, c'est-à-dire les caractéristiques biologiques des espèces qui vont être présentes. Et on sait que le contrôle d'un processus écologique, décomposition, minéralisation, eh bien, il peut être assuré par une seule espèce qui va dominer et qui va porter une caractéristique biologique qui va avoir un effet fort pour le processus écologique, c'est l'effet de dominance. Puis à l'opposé, le processus peut être contrôlé par un ensemble d'espèces qui vont avoir des caractéristiques biologiques un peu différentes, mais très complémentaires pour accélérer le processus, ou au contraire, non, pour accélérer le processus. Et cette fois-ci, on est sur un mécanisme d'effet de complémentarité. Donc, au sein de la diversité horizontale, on a à la fois la richesse taxonomique, mais aussi la diversité fonctionnelle qui va contribuer à accélérer ou ralentir les flux d'éléments. Alors, biodiversité des sols et fonctionnement des sols, deux exemples d'études. Une étude en microcosme qui a 6 ans maintenant, où les auteurs ont reconstitué dans un microcosme un gradient décroissant de diversité biologique en réduisant les biomasses microbiennes en rouge, en réduisant les biomasses de mycorhiziens en jaune, de nématodes et de bactéries en bleu et en mauve. Et donc on voit que plus on va vers le niveau 6, et moins on a de diversité taxonomique. Et ils ont regardé un peu les effets sur certaines fonctions. La diversité des Alors, les effets sont soit très significatifs, soit peu significatifs, mais en règle générale, ça marche pas mal. Quand on diminue la diversité du sol, eh bien, on a une réduction de la diversité des plantes, une réduction de la productivité primaire avec une augmentation à un moment donné, mais c'est certainement dû à la disparition des nématodes phytophages. La séquestration du carbone, c'est pas significatif. Par contre, on a un effet de seuil sur la décomposition de la litière qui va baisser quand on réduit la diversité du sol. Pour le turnover de l'azote, c'est faiblement significatif. Par contre, on a une très forte augmentation des pertes d'azote par émission de N2O. Et puis, on a aussi une très forte augmentation des pertes de phosphore par lessivage quand on réduit la diversité du sol. Et c'est un peu moins flagrant pour les pertes d'azote par lessivage, mais les émissions le compensent. Alors ça, c'était une étude en microcosme. Plus récemment, il y a des auteurs qui ont travaillé à caractériser par des approches métabarcoding la faune, enfin les biocénoses du sol sur 83 sites dans le monde, sur les 5 continents, sur différents types de modes d'occupation du sol. Et ils ont essayé de corréler cette diversité taxonomique avec 11 fonctions qui sont à gauche, qui vont de la réduction de la présence de gènes résistants aux antibiotiques, la réduction de pathogènes pour les plantes envers la production primaire, puis la disponibilité en azote et en phosphore, et enfin en bleu, un groupe de fonctions liées à la dynamique de la matière organique. Et ce qu'ils ont montré, c'est que alors les 12 groupes taxonomiques englobent des invertébrés, méso, macro, des champignons, des bactéries et des micro-invertébrés, des protistes. Ce qu'ils ont montré, c'est que globalement, quand on considère l'intégralité des groupes taxonomiques et l'intégralité de la diversité intra-groupe taxonomique, eh bien, cette multidiversité est corrélée positivement avec 7 fonctions sur les 11 étudiées. Ce qui est intéressant, donc je détaille pas la figure de gauche, mais si on regarde la corrélation entre niveau de biodiversité du sol standardisé et niveau de multifonctionnalité aussi standardisé, eh bien, on se rend compte que chaque groupe taxonomique, la diversité taxonomique intra-groupe est corrélée positivement avec les multifonctionnalités et la multidiversité qui englobe à la fois la diversité intra-groupe taxonomique et la diversité inter-groupe taxonomique, eh bien, elle est plus fortement corrélée, elle a une pente plus forte avec la multifonctionnalité, ce qui montre qu'il y a les effets de chaque groupe taxonomique ne sont pas simplement additifs, mais très complémentaires. Alors, qu'en est-il de la gestion des sols et de la biodiversité, la gestion forestière, pardon, et de la biodiversité maintenant? Alors, je vais passer en revue un certain nombre de gestions. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas trop dépasser, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Un des modes de gestion que l'on envisage aujourd'hui pour adapter les forêts au changement climatique, c'est de raccourcir les rotations sylvicoles. Et je vous présente ici juste un exemple d'étude que l'on avait réalisé il y a un petit moment déjà sur des chronoséquences de hêtraies, des rotations sylvicoles de hêtres qui se déroulaient en Normandie sur 170 ans à la fin des années 90 et qui aujourd'hui se déroulent sur 90 à 120 ans. Donc, on avait reconstitué une chronoséquence de manière empirique en sélectionnant des parcelles d'âge différents. Et puis, on avait regardé, par exemple, la diversité fonctionnelle microbienne au cours de cette rotation sylvicole par des profils métaboliques biologues. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est on regardait sur 31 substrats carbonés azotés différents, on regardait combien étaient métabolisés par les bactéries cultivables du sol. Et si on regarde pour les horizons OL, donc qui sont les horizons de litière en surface, eh bien plus le peuplement vieillit, plus les organismes, la microflore du sol est capable de dégrader un nombre de substrats importants, notamment une grande augmentation entre 95 et 130 ans. Pour les horizons FH, donc les horizons qui sont juste en dessous, eh bien c'est un peu la même chose. Plus le peuplement vieillit globalement, hein, plus le sol est capable de métaboliser un nombre de substrats important, même si les écarts de 7 à 14 ne sont pas forcément extraordinaires. Et l'horizon A, c'est, il n'y avait pas de différence significative. Mais ce qu'on voit ici, c'est que si on réduit les rotations en dessous de 130 ans, 130 ans, eh bien, on prend le risque d'effacer une partie de cette diversité fonctionnelle. Pour la mésofaune, il n'y avait pas de résultat probant, hein, juste un turnover de groupe dominant, mais pas de turnover d'espèces. Et pour la macrofaune, il n'y avait rien de significatif. Donc une réponse des groupes taxonomiques bien différentes en fonction des groupes. Un deuxième exemple, c'est la réponse de la macrofaune du sol à l'exportation des rémanents ligneux, tout diamètre confondu, et la compensation minérale par apport de cendres. Donc, on avait utilisé le réseau expérimental MOS, qui est piloté par l'unité BEF INRAE de Nancy. Et sur ce réseau MOS, il y a quatre modalités très testées, donc un contrôle, où on ne fait rien du tout, une modalité RL où on prive le système de matière organique complètement en enlevant la litière et en enlevant l'ensemble des rémanents forestiers, une modalité R- où on enlève juste les rémanents forestiers, et une modalité cendre H où on apporte des cendres en plus d'avoir retiré les rémanents forestiers. On a fait ça donc sous des sites de hêtraies et sous des sites de chênaies dans différents contextes bioclimatiques. Eh bien, voici quelques résultats. L'effet sur la macrofaune du sol endogé. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais ce qui est intéressant à regarder ici, c'est que globalement, on a pour les vers de terre une réponse équivalente à l'apport de cendres sous hêtraie et sous chênaie. Par contre, sous la modalité RL où on prive le système complètement de matière organique, eh bien, la réponse, on a une chute de l'abondance des vers de terre et sous hêtraie et une augmentation sous chênaie. Si on regarde l'abondance des coléoptères, eh bien, sous hêtraie, on a une réponse favorable à l'apport de cendres, alors que sous chênaie, on a une réponse négative des coléoptères à l'apport de cendres. Donc, ce qu'on voit ici pour cette partie de la faune-là, c'est que la réponse est fonction de l'essence forestière dominante et fonction du groupe trophique sur lequel on travaille. Sur la faune épigée, celle qui vit dans les horizons tout organiques, OLOF-OH, la réponse des gloméridés, sous hêtre, pas de réponse négative par rapport au contrôle. Et sous chêne, on a une réponse négative quand on retire les rémanents et quand on apporte de la cendre par rapport au contrôle. Donc les gloméridés sont des détritivores. Si on regarde les herbivores, eh bien, les limaces ont une réponse négative sous hêtre dès qu'on retire les rémanents. La compensation par la cendre n'est pas terrible. Et sous chêne, par contre, ces deux modalités ont plutôt un effet positif, mais ce n'est pas significatif du tout. Et puis, si on regarde les araignées, prédateurs cette fois-ci, eh bien, on a un peu l'inverse. Pas de réponse sous hêtre, mais une réponse aux pratiques expérimentales négative en termes d'abondance par rapport au contrôle sous chêne. Donc là aussi, on a une réponse qui est variable en fonction de l'essence forestière dominante et en fonction du groupe trophique étudié. Donc difficile de dégager des préconisations pour les sylviculteurs. Enfin, dernier exemple, biodiversité des sols et densité des peuplements. Donc, ce qu'envisagent aussi les forestiers pour adapter les forêts au changement climatique, c'est de réduire la densité de tiges à l'hectare pour limiter les prélèvements en eau. Et on avait travaillé à regarder cet effet-là, l'effet de cette réduction de densité sur la faune du sol en futaie régulière de chêne sessile sur des peuplements expérimentaux du Giscop et de l'INRAE. Donc, les expérimentateurs avaient fait varier la surface terrière de 44 mètres carrés très dense à 3 mètres carrés hectares peu dense. Quelques exemples de réponses pour les colamboles, mésofaune, consommateurs de champignons essentiellement. Eh bien, quand on intensifie les éclaircies, donc on réduit la densité vers la partie zéro du graphe ici, eh bien, on a une chute de l'abondance des colamboles uniquement pour les peuplements inférieurs à 90 ans, c'est-à-dire uniquement dans la phase de croissance intense des arbres. Après, il n'y a pas de différence significative. Pas d'effet sur la richesse observée pour les colamboles prises dans la globalité. Par contre, sur la richesse des émis édaphiques, des organismes, des colamboles qui vivent au milieu de la litière, hein, dans les horizons FH essentiellement, eh bien, toujours dans cette phase de croissance intense des arbres, on a une chute de la richesse spécifique dès qu'on intensifie les éclaircies et pas de réponse pour les peuplements plus âgés. Réponse des diplopodes, même type de réponse que les colamboles. Si on éclaircit fort, on réduit l'abondance et on réduit la richesse spécifique également. Donc, les diplopodes sont des détritivores. Si on regarde les vers de terre anessiques, alors je vous passe l'abondance à gauche, le R carré est très mauvais, mais par contre, si on regarde la réponse de la richesse spécifique à la manipulation de l'éclaircie, eh bien, on obtient une courbe en cloche, c'est-à-dire qu'on obtient un maximum de vers de terre anessiques. Hein, ce sont les vers de terre qui creusent des galeries verticales et qui contribue très fortement à la structuration du sol. On a un maximum de diversité pour le milieu du gradient expérimenté. Donc une réponse encore différente de celle que l'on a vue juste avant. Et ce n'est pas valable pour tous les vers de terre. Si on prend les endogées, c'est ceux qui creusent des galeries horizontales et qui remontent très peu à la surface, même si l'exemple que je vous ai pris, le chlorotique, n'est pas forcément très bon. Eh bien, quand on augmente le régime d'éclaircie, qu'on réduit la densité des peuplements, eh bien, on augmente l'abondance de ces vers de terre endogés, et quand on réduit la densité, eh bien on augmente la richesse observée, donc une réponse totalement différente également encore. Donc conclusion, rapidement, en forêt, pourquoi une variabilité de réponse aussi forte? Eh bien tout simplement parce que la diversité des sols est très importante en forêt, diversité de textures, sol argileux, sableux, fortement caillouteux, faiblement caillouteux, des essences très variables, des contextes pédoclimatiques très variables, et qui fait que les groupes qui vont dominer sont très variables également. Et on revient sur le fameux triptyque mule moderne mort, où dans les mules, bah, on va essentiellement trouver des organismes type vers de terre anessiques endogés, très peu de collemboles et acariens, qui n'aiment pas être dérangés par les vers de terre d'ailleurs. Puis à l'opposé, dans les morts, bah, soit on trouve rien du tout, soit on trouve essentiellement des collemboles et des acariens, puis au milieu, les modères avec des diplopodes et des myriapodes, et puis des collemboles et des acariens. Ce qui fait qu'une même modalité expérimentale, on n'obtiendra pas la même réponse, puisque les groupes présents sont différents. Les groupes présents sont différents aussi au cours des rotations sylvicoles. On va avoir une dominance de vers de terre essentiellement en fin de rotation sylvigénétique, pardon, quand les arbres pompent plus beaucoup d'éléments nutritifs dans le sol, et puis une dominance d'acariens et de collemboles, nématodes et diplopodes, durant la phase de croissance intense des arbres. Donc en fonction de quand on vient faire l'échantillonnage au cours de la rotation sylvicole, on n'aura pas forcément les mêmes cortèges, donc évidemment des réponses qui peuvent varier. La biodiversité des sols et services écosystémiques, eh bien, la multifonctionnalité, on l'a vu, enfin, le lien multifonctionnalité-biodiversité est important. Et donc, le lien biodiversité des sols, services écosystémiques est important. Si on regarde un peu la douzaine de services écosystémiques rendus par les sols agricoles, récemment illustrés, eh bien, on voit que le couplage matière organique, biologie des sols est un peu central. Et sur cette douzaine de services rendus, quand on regarde, on peut très facilement montrer que les trois quarts, hein, 9 sur 12 des services présentés ici sont directement reliés à la faune, à la biologie des sols, la fourniture de nutriments pour la production de biomasse végétale, le stockage et la restitution de l'eau pour les plantes, la régulation de la qualité de l'eau, la régulation du climat par le stockage de carbone, etc., etc. Puis on peut même aller jusqu'à la régulation des adventices, puisqu'on a montré aussi qu'il y avait des mécanismes de sélection des graines par certains groupes trophiques du sol. Donc le lien est relativement fort. Enfin, pour finir, gestion forestière et biodiversité des sols, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre parce qu'on ne connaît que 25 à 35% des taxons déjà présents dans le sol. Les sols forestiers sont très diversifiés et on ne maîtrise pas les basiques comme on pourrait les maîtriser pour la flore. Quelles espèces on va trouver sur quel type de sol? Quelles espèces on va trouver sous quelle essence native? Quelles sont les exigences et les amplitudes écologiques de toutes les espèces présentes dans le sol? Ça, on ne maîtrise pas complètement. Et donc, c'est très compliqué de répondre aux questions des forestiers. Quel est l'effet des nouvelles essences implantées pour passer le cap du changement climatique? Quels sont les effets des nouvelles pratiques d'exploitation, des nouvelles pratiques de renouvellement, de peuplement, en dehors des régénérations naturelles, ou des nouvelles pratiques de sylviculture, modification des rotations, de la densité, des effets des mélanges d'essences, tout ça? C'est difficile de répondre aux questions à ces questions-là quand on ne maîtrise pas les basiques. Or, changer de pratique de gestion aujourd'hui, c'est globalement composer des poules d'espèces qui affronteront les changements climatiques sans maîtriser les exigences écologiques de ces dernières, c'est-à-dire sans savoir si elles seront aptes à passer ces changements climatiques, et donc pas mal de travail pour les chercheurs que nous sommes. Merci à vous.